Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je vous ai déjà fait le coup il y a quelques semaines du popopop pas comme les autres lorsque nous avons diffusé l'interview de Bruce Springsteen. Mais là, au risque de me répéter, je me répète. Le popopop d'aujourd'hui, c'est de la super balle. Notre invité a créé il y a tout juste 50 ans un groupe qui a fondu sur la scène musicale de l'époque comme le font les ouragans sur les côtes caribéennes quand arrive le mois de septembre. La comparaison s'arrête là car au lieu de semer mort et destruction, cet ouragan-là a au contraire stimulé les années 70 en même temps qu'il réinventait une grammaire musicale et sans même parler des shows flamboyants tandis qu'il redéfinissait l'idée que l'on se faisait de la production sonore. Phil Spector avait inventé le mur du son, le groupe dont je vous parle, c'était la muraille de Chine. On connaît la maxime selon laquelle le tout est plus que la somme de ses parties et peut-être s'applique-t-elle à Led Zeppelin, puisque c'est bien sûr d'eux qu'il s'agit. Mais pour autant, c'est la réunion de quatre virtuoses qui produisit ce volcan dont l'éruption continue de faire sentir ses effets 50 ans plus tard. Autant dire que l'honneur que nous fait Jimmy Page de s'exprimer dans Pop Pop Pop, lui dont la parole est si rare, est apprécié à sa juste valeur.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline Roux.
Bonjour, Antoine.
Quel est votre morceau préféré de Led Zepp? Et par pitié, ne me répondez pas le générique de 50 minutes inside. Comme tous ceux qui attendent chaque samedi, l'actu d'Ariana Grande et d'Étoré aussi, en confondant avec ce tube. Alors,
c'est précisément celle-là, ma préférée, Immigrant Song.
Ah, mais quel bon choix, mais quel choix judicieux. Bravo, Charline, je vous en félicite. Au menu de Pop Pop Pop, donc une spéciale avec Jimmy Page. Le créateur de Led Zepp parle peu, il ne parle presque jamais, mais il nous a accordé une interview exclusive au micro de notre pop reporter Paul Smith. Je laisse donc à ce casting 5 étoiles le soin de lancer cette émission exceptionnelle.
Hi, this is Jimmy Page.
And I'm Paul Smith.
And we're on
Pop Pop Pop. Pop.
Pop, 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 c'est parti! Et on commence tout de suite cet entretien enregistré la veille des 50 ans de la sortie du premier album de Led Zeppelin en faisant un bond en 69. Et je laisse la parole à Sir Paul Smith. Nous sommes ici avec Jimmy Page dans sa magnifique maison de Londres. Demain, nous serons le 12 janvier. Cela fera donc exactement 50 ans. Et oui,
il y a 50 ans, jour pour jour, le 12 janvier 1969, le tout premier album Led Zeppelin 1 est sorti aux États-Unis. Déjà passé à la radio et on avait déjà donné des concerts à San Francisco, au Fillmore West. On a donné 3 concerts, on nous a ajouté une 4e date. Donc on a donné 4 concerts à San Francisco et croyez-moi qu'on a fait bouger les choses à San Francisco. Et alors, notre réputation s'était faite par le bouche à oreille parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque. Mais pas d'Instagram ou de YouTube, heureusement d'ailleurs. Donc on s'était fait connaître par la radio, et puis là, le produit lui-même, c'est-à-dire l'album qui était sorti dans tous les États-Unis, et donc c'était le 12 janvier, la date de sa sortie.
Pop, 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 pop. Jimmy Page est avec nous jusqu'à 17h, mais pour l'heure, on écoute le premier morceau de cette playlist 100% Led Zepp avec le morceau Living Loving Made.
Money!
Living Loving Maid, premier morceau signé Led Zepp dans ce pop-up spécial Led Zepp. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Jimmy Page. Charline, au lieu de faire un pop portrait
à base de pop.
Non, de Jimmy Page, faisons plutôt un Jimmy Page pour les nuls.
Mais ça c'est contrariant Antoine, j'avais prévu une très belle présentation en 10 points, PowerPoint à l'appui, mais effectivement pour la radio c'est moins pertinent. Sachez d'abord que le magazine Rolling Stone l'a classé, notre invité, 3e derrière Jimi Hendrix et Eric Clapton dans le palmarès des 100 meilleurs guitaristes rock de tous les temps. Un petit génie qui, avant d'officier au sein des Yardbirds puis de Led Zepp, a accordé sa guitare et multiples talents en étant musicien studio. C'est d'ailleurs lui qui assure la partie rythmique du You Really Got Me des Kings ou la guitare lead et le solo du I Can't Explain des Who. Led Zeppelin compte plus de 300 millions d'albums vendus à travers le monde, ce qui est plutôt rassurant quant à la qualité des oreilles internationales et le bon goût mondial. Led Zepp a d'ailleurs été le tout premier groupe à avoir 6 albums simultanément présents dans les charts en 75 au moment de la sortie de Physical Graffiti. Les 5 précédents étaient encore classés parmi les meilleures ventes. De leurs 9 albums le plus vendu à ce jour est le cru 1971, soit Led Zeppelin 4 avec 37 millions d'exemplaires dans le monde. On a beaucoup parlé du goût de Jimmy Page pour l'occultisme et de sa fascination pour Aleister Crowley, poète, romancier et membre influent de plusieurs organisations occultes. Nous nous contenterons de parler d'aura mystique. Et notre illustre interviewé est aussi membre de l'ordre de l'Empire britannique. Ça tombe bien, celui qui l'a interviewé a été anobli par la reine Elisabeth II en 2000. Aujourd'hui dans Pop, les royaux Jimmy Page et Paul Smith.
Merci Charline. Alors quand on reçoit dans Pop un monstre de la pop culture, on lui demande évidemment son livre, son film, sa musique et sa série culte. Alors ça s'appelle la pop list. Enfin, on lui demande. Ça, c'est quand je demande. Car quand c'est Sir Paul Smith qui s'y colle et qu'il n'a pas ses lunettes, bah, il en zappe la moitié. Bon, intéressons-nous quand même à sa demi-pop-liste.
Vous avez un film favori ?
Ben, il y a Orange Mécanique.
There was me. That is Alex. And my three droogs. That is Pete, Georgie and Dim.
Ou bien 2001, l'Odyssée de l'espace. Deux films de Kubrick d'ailleurs.
En raison de l'énergie qu'ils dégagent ou de leur originalité?
Il fallait une vision incroyable pour faire Orange Mécanique, c'est-à-dire de reprendre les éléments du livre d'Anthony Burgess et d'en faire un film. C'était absolument incroyable. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était quelque chose d'inédit. On ne pensait même pas à la question des bandes de voyous, des gangs, vous ne connaissez pas. Et lui, d'ailleurs, il n'a pas voulu que le film sorte en cassette, en VHS, parce qu'il avait peur que ça donne de mauvaises idées aux gamins. Vous ne saviez pas ça ? Non, j'ai appris ça. En fait, la version VHS est sortie après sa mort. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Avec 2001, Kubrick, il a fait quelque chose d'absolument phénoménal. Moi, j'ai deux fils qui s'intéressent au cinéma. Et je me rappelle avoir présenté 2001 à mes trois plus jeunes à la télé. Enfin, on a un grand écran plat. Enfin, tout le monde a un grand écran plat à la maison de nos jours. Mais vous rappelez, le début du film est très lent. Et alors, à l'époque, ça passait en écran géant dans le cinéma, en cinérama. Et on est complètement envahi par l'image. Il y a cette roue géante qui tourne dans l'espace. Alors, c'est très lent. Je me rappelle qu'au départ, mes gamins me demandaient, mais c'est quoi ce film? Et à la fin du film, c'est le meilleur film de tous les temps. Et en fait, la raison, c'est que mon fils, celui qui s'intéresse au cinéma, il s'est dit, mais je ne vois pas comment il a réussi à faire un truc pareil.
Y a-t-il une chanson, à part les vôtres, qui sort du lot? Comme l'album Astral Weeks, ou bien les chansons de Bob Dylan? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais plutôt une dizaine.
Écoutez, il y a eu un tournant pour moi. C'est quand j'ai vu Lonnie Donegan à la télé. Et je me rappelle qu'il a chanté, qu'il a joué deux chansons, Rock Island Line et Cumberland Gap. Et moi, à l'époque, j'entendais plein de musique, musique rock avec Little Richard ou Elvis Presley. Enfin, j'écoutais toutes sortes de musique. Et puis, j'ai vu quelqu'un passionné qui était là à l'écran. Et j'entendais cette énergie incroyable. On voyait ça à la télé, mais on n'entendait jamais ça à la radio. Le rock était quasiment censuré à la radio. Alors, c'est un jeune homme plein de passion. Enfin, il était pas tout jeune, c'était plus un adolescent, mais il jouait à la guitare acoustique, le gars. Et alors, pour les guitaristes de l'époque, dont moi-même, on s'était dit, mais dis donc, mais c'est faisable, on peut jouer ça à la guitare acoustique. Et moi, j'avais une guitare acoustique à la maison, je me rappelle. Alors, personne ne jouait de la guitare dans la famille, mais enfin, on avait cette guitare. Et alors, je me rappelle, je suis allé à l'école un jour, j'ai vu un camarade qui jouait justement de la guitare en chantant justement une des chansons de Lonnie Donegan. Et je lui ai dit, waouh, j'ai une guitare comme ça à la maison. Et elle m'a dit, amène-la. Je vais te l'accorder, je vais te présenter des accords. Il y a aussi Van Morrison qui a été très influencé par Lonnie Donegan également. Alors, il écoutait Led Belly et les autres aussi, d'ailleurs. Mais enfin, ce qui est intéressant de voir que Lonnie Donegan a une telle influence. Je vais vous raconter une anecdote. Une histoire tout à fait intéressante. Lors du mariage de Patty et de George Harrison, quand ils sont mariés, ils ont invité, à leur mariage, si je ne m'abuse, ils ont invité justement Lonnie Donegan, qui est venu donc jouer pour eux. Alors, moi, je n'avais pas été invité, mais il y a eu plein d'autres guitaristes qui voulaient absolument y aller pour voir le phénomène de Lonnie Donegan, parce que comme moi, il a eu une telle influence.
Mais c'est absolument fascinant. Je n'aurais jamais pensé à lui. Cela dit, il faut reconnaître qu'il était tout à fait exceptionnel.
Ah oui, oui, il était exceptionnel. Il était très, très bon. Il était un petit peu le J.K. Rowling de la musique, parce que J.K. Rowling, elle a mis tout le monde à la lecture, ou Dan Brown aussi avec le Da Vinci Code. Eh bien, avec Donegan, tout le monde s'est mis à la guitare. Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? If your mother said don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils and you hear it left and right? If your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight, now the nation rises one to send their honored son up to the White House. Yeah, the nation's only White House to voice their discontent. Does your chewing gum lose its flavor? Est-ce que votre chewing gum a perdu son parfum, son goût? Vaste question posée par Lonnie Donegan, le premier crush musical de Jimmy Page, au micro de Sir Paul Smith dans ce pop-pop-pop spécial. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais aujourd'hui, Jimmy Page est l'invité de pop-pop-pop.
Oui, je pense que tout le monde est au courant, Antoine.
Oui, alors, ok, suite de l'entretien exclusif, juste après le deuxième morceau de cette playlist 100% Led Zepp, l'occasion de réécouter cette tuerie absolue qu'est Black Dog. Vous pouvez monter le volume.
Pop, 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 Antoine Decaune sur France Inter.
Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.
Led Zeppelin, Black Dog, cet extrait de l'album Led Zeppelin 4, sorti en 71. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et Jimmy Page est pop. Il est donc dans Pop 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 et c'est une...
Breaking Pop 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 News.
La suite de l'entretien londonien réalisé par Sir Paul Smith, c'est juste après mon pop. Est-ce que vous êtes prête, Charline ?
Prête.
Et bien voilà comment s'est monté le groupe Led Zepp sur les cendres des Yardbirds. Une interview exclusive de Jimmy Page menée pour nous par Paul Smith.
Au moment de former le groupe, au début, il devait s'appeler les New Yardbirds.
On ne voulait pas reprendre, en fait, le nom Yardbirds. On voulait se différencier de cela, faire une musique vraiment nouvelle, vraiment différente. Alors, il fallait que je trouve un chanteur. Alors, j'avais des idées assez précises de ce que je voulais faire. J'avais déjà une idée du répertoire et j'avais déjà le profil du batteur en tête, mais il fallait trouver un chanteur, il fallait faire venir le chanteur chez moi, lui présenter le répertoire, parce que si ça ne cliquait pas, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors je me rappelle, quand j'étais avec les Yardbirds, on travaillait d'ailleurs avec Jeff Beck à l'époque, je me rappelle qu'on était en tournée d'Angleterre. Alors, on avait joué notamment à Ipswich, je crois, dans un cinéma, il me semble. Et là, il y avait un groupe qui s'appelait Peter Jay and the Jaywalkers. Et Peter Jay avait un chanteur absolument incroyable. Je m'en souviens encore. Là, c'était en 65-66. Et ce chanteur m'avait vraiment impressionné. Et il avait, je crois, 15 ans. Et il s'appelait Terry Reid. Terry Reid. Alors, ce qu'il faut savoir sur Terry Reid, il y a un album qui s'appelle River qu'il a fait. Écoutez cet album et vous comprendrez le génie de Terry Reid. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il continue à travailler. Mais enfin, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il avait une attaque un petit peu comme celle de Steve Marriott ou même Steve Winwood à ses débuts. Quelque chose de très, très présent. Une palette vocale absolument. Toujours est-il que... Donc j'ai téléphoné au bureau. Alors c'était marrant, le bureau de Peter Grand et de Mickey Mouse était un peu particulier parce que c'était une toute petite maison. Alors, ils partageaient un bureau avec chacun sa table. Et alors, il y avait quelqu'un à l'accueil, une secrétaire qui faisait un petit peu toutes les tâches. Et les choses se faisaient dans cette espèce de famille nucléaire, là. Enfin, je me rappelle que j'avais demandé à Peter Grant, est-ce que tu peux retrouver ce chanteur qui s'appelait Terry Reid, qui avait joué avec Peter Jay et The Jaywalkers. Puis, bon, il se passe quelques jours, je le rappelle. Alors, il y a du nouveau, ils disent « Ah ouais, non, il vient de signer un contrat pour jouer en solo ». Alors je dis « Bon, ben, c'est dommage, bon ». Mais il a recommandé à certains Robert Plant. Bon. Alors, bon, très bien. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller voir Robert Plant, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, j'aurais pu faire le rapprochement, mais la maison avec laquelle il a signé le contrat en solo, c'était Mickey Mouse qui était dans le même bureau que Peter. Enfin bon, toujours est-il que l'album River est absolument incroyable.
Et c'était la même chose pour le batteur?
Ah non, non, c'était pas tout à fait la même chose. Parce que pour le batteur, je me rappelle... J'avais, avant de créer mon propre groupe, je me rappelle, on avait enregistré avec Joe Cocker, on avait enregistré With a Little Help from My Friends, j'étais à la guitare, et là le batteur me paraissait assez exceptionnel. Je me rappelle qu'il avait joué dans différents groupes. Alors moi-même j'avais travaillé avec d'excellents batteurs dans différents groupes quand j'étais encore musicien de studio, donc je connaissais quand même pas mal les batteurs du circuit. Et ce batteur-là me paraissait plutôt pas mal. Mais bon, c'était quelqu'un que j'avais en tête. Mais il fallait d'abord trouver un chanteur. Donc, je me rappelle pour aller voir Robert Plant. Enfin, on est allé dans un collège qui s'appelait le Teachers Training College. C'était à Birmingham. Donc c'était une école, et puis il y avait un groupe qui s'appelait Hobbs Tweedle. Drôle de nom. Et il y avait donc Robert Plant. Il n'y avait pas beaucoup de public.
Toujours est-il qu'il faisait pas mal de musique du genre côte ouest, musique surf et tout ça. Enfin, quand même, j'avais déjà remarqué qu'il avait une gamme vocale assez remarquable. Disons, prometteuse. Alors, je ne savais pas comment il était sur le plan personnel. Et je ne savais pas si allait se retrouver dans l'esprit du groupe que j'avais envie de créer. S'il allait pouvoir travailler avec quelqu'un qui, un ancien des Yardbirds. Ce n'était pas gagné. Toujours est-il que je l'ai invité chez moi. Et je lui ai passé la musique. On parlait de mes disques. Alors, ah, t'as tel disque. Ah ouais, moi j'ai celui-là. C'est génial. Bon, la musique blues. Et je lui ai passé Babe, I'm Gonna Leave You, chanté par Joan Baez. C'était un enregistrement en live. Donc elle a cette voix assez remarquable. Et il avait jamais entendu cet enregistrement. Je lui ai dit, voilà, reprends la mélodie. Essaye de faire ce qu'elle fait. Reprends cet esprit-là. T'inquiète pas trop pour les paroles, il n'y a pas beaucoup de paroles. Parce que moi, j'avais un arrangement pour la guitare, pour cette chanson. Donc j'ai commencé à jouer, il a commencé à chanter. Puis je me suis dit, waouh! Donc, le courant est passé entre Robert Plant et moi. Et puis il est venu me voir plusieurs fois. Puis un beau jour, il m'a dit, voilà, je connais ce batteur qui est très bon. Alors, il faut voir que Robert Plant n'était jamais sorti de Birmingham, hein, c'était son patelin, et il avait eu un petit groupe, pas le Hobbs Tweedle, mais enfin, et John Bonham d'ailleurs, il n'était pas dans Hobbs Tweedle. Toujours est-il que John Bonham avait gravi les échelons, parce que maintenant il travaillait avec un certain Tim Rose. Toujours est-il qu'ils étaient en tournée, donc lui il était à la guitare, donc c'était John et Bonzo, et je me suis dit, waouh, il est vraiment brillant, et vraiment comme batteur, il écoute vraiment la guitare, le chanteur, il a une vraie dynamique, et puis il a fait ensuite un passage solo. Alors, j'avais déjà été séduit par son jeu de batteur, mais là j'étais complètement captivé par la batterie de John Bonham. Et puis il y a une véritable puissance chez John Bonham, une puissance et en même temps une grande sensibilité. Donc on était trois, et John, Robert, moi, et puis j'ai reçu un beau jour un appel de John Paul Jones qui a dit, j'apprends que vous voulez créer un groupe, est-ce que je pourrais faire la basse dans votre groupe? Et je me suis dit, très bien, parce qu'on avait John Bonham qui était prêt à travailler avec nous. Enfin, il était sous contrat avec Tim Rose, mais c'était quelqu'un de très professionnel. Il faisait toujours les choses de manière très carrée. Et à l'époque, c'était quand même important. On était musicien, je sais pas, dans une ville. Bien souvent, pendant la journée, on avait un job à temps plein, et puis on était... On faisait ça de manière mi-professionnelle, la musique le soir dans les clubs. Et Bonzo's, John Bonham, c'était un vrai pro. Toujours est-il qu'il est venu aux répétitions, et on s'est tous retrouvés dans une pièce, et c'était absolument phénoménal. Pourquoi ? Parce que c'était un moment où on sentait que nos vies allaient basculer, parce que tout le monde était tellement brillant. Alors, chacun de son côté, hein, parce qu'ils se sont même surpassés, parce que d'ordinaire, lorsqu'on est un musicien de studio, on est là pour accompagner les vedettes, alors que là, chacun pouvait se mettre en avant, qu'on soit guitariste ou batteur, chacun était là sur un pied d'égalité et chacun s'est ainsi surpassé. Donc, nous avons convenu de se retrouver tous chez nous pour les répétitions. Donc, on a fait les répétitions. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller assez vite pour qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Alors, on ne risquait pas de s'ennuyer parce que la musique qu'on faisait était quand même tout à fait exceptionnelle. Mais il fallait quand même créer un répertoire au-delà de ce que l'on allait enregistrer pour l'album. Alors, j'avais quelques suggestions pour voir ce qu'on pourrait glaner chez les autres. Alors, je me rappelle, il y avait un album qui s'appelait le Velvet Opera de Elmer Gantry. Il y avait une chanson dedans qui s'appelait Flames.
Alors, je me rappelle qu'on a fait une reprise de Flames. On a même fait une reprise de Walking in the Sand des Shangri-Las. Alors, je ne sais pas si cette chanson s'est retrouvée dans le répertoire. Mais enfin, je sais qu'il y avait pas mal de chansons en blues. Enfin, il y a eu pas mal d'improvisations. On a créé de la nouvelle musique chaque soir. Donc, toujours est-il qu'on avait encore une tournée prévue en Scandinavie pour les Yardbirds. Alors, tout avait été planifié. Je me suis dit peut-être qu'il va falloir annuler cette tournée. Puis on s'est dit non, on ne va pas annuler parce qu'on a créé ce groupe. On va aller en Scandinavie sous le nom des New Yardbirds. On y allait en quelque sorte incognito. Donc on allait donner ces concerts et à notre retour, on allait changer d'identité.
Quand êtes-vous passé des New Yardbirds à Led Zeppelin?
Bien, nous avions enregistré l'album sous le nom des New Yardbirds, mais cet album n'était pas destiné aux États-Unis, mais c'est aux States qu'on allait devenir les Led Zeppelin.
France Inter. Antoine de Caunes.
Voilà, vous savez tous les détails sur la création de Led Zeppelin par Jimmy Page en personne. Pop break dans ce pop-pop-pop 100% Led Zeppelinien pour lancer les pop news 100% Led Zeppelinienne. Alors, jingle Led Zeppelinien, s'il vous plaît.
Des pop news spéciales Led Zepp, mais aussi Whole Lotta Love Monomaniac. Voici trois reprises, trois salles, trois ambiances. La première est signée Temple City Kazoo Orchestra. Et comme son nom l'indique, ce collectif de Glasgow fait des reprises au kazoo. Cet instrument délicieux au son pas du tout fatigant. Ne nous remerciez pas, c'est cadeau et de une reprise de Whole Lotta Love.
La deuxième est signée Ramon Pipin et Les Excellents, le groupe qu'ils forment avec Camille Saferi. Ils étaient d'ailleurs passés par les studios de Pop 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 pour leurs interprétations, tout en français.
T'es nul en cuisine, ce soir y'a ta copine. Et t'es pas foutu d'y faire un tagine. Ouais, ouais, dans le frigo, y'a que de pompe à ton carton.
J'en profite pour vous annoncer que Ramon Pipin sera en concert les 16 et 17 février au Café de la Danse à Paris. Et hop, de deux reprises de Whole Lotta Love.
Et la troisième cover, c'est au groupe Delgrès qu'on la doit. Le trio de blues créole qui avait fait étape pour France Inter au Carreau du Temple. Un concert présenté par Rebecca Manzoni et au cours duquel on a pu entendre ceci.
Ça me fait bien, j'ai la qu'à jouer.
Et pour voir Delgrès en concert, ce sera à la Cigale le 20 mai et de trois reprises de Whole Lotta Love.
France Inter. On peut pas. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Ramon Pipin.
Robert Plante.
Ah, pardon.
On retourne sur la planète.
Je confonds souvent en même temps.
On retourne sur la planète pop de Jimmy Page, juste après le morceau Good Times, Bad Times, signé Led Zeppelin, évidemment, à fond le volume, je vous dis.
Yeah.
Good Times, Bad Times, cet extrait du premier album de Led Zeppelin intitulé sobrement Led Zeppelin, c'était donc il y a tout pile 50 ans. Célébrons cet anniversaire avec le leader de Led Zepp. Bon, ok, célébrons cet anniversaire avec le leader de Led Zepp et avec celui qui s'est mis dans le costume d'Antoine de Caunes pour mener cette interview, Paul Smith. Encore que, attendez, c'est étrange parce que Paul Smith qui se met dans le costume d'Antoine de Caunes, enfin, sauf si c'est un costume Paul Smith, mais ça veut dire que... Bon, retournons avec eux et voyons ce que donne Paul à ma place.
France Inter. On peut pas. Antoine de Caunes.
Ok, Antoine.
Okay, Antoine. Vas-y, Antoine. Je vous attends, je suis à vous.
Ceux qui vous suivent sur Instagram disent que vous vous rappelez avec une précision extrême de tout ce qui vous est arrivé. Et en effet, je confirme, car je viens de vous écouter, raconter votre vie avec une foule de détails. Du coup, vous vous rappelez exactement ce 12 janvier
69.
Bah, voyez-vous, il y avait une chose, c'est que je connaissais exactement la valeur de notre groupe sur le plan musical. Avant même de rencontrer Robert Plant ou les autres, je voulais créer un groupe, un peu comme le groupe de Jeff Beck ou de Eric Clapton, un tel groupe que les autres musiciens, que la profession puissent nous dire, dis donc, vous avez un sacré groupe, hein, d'avoir vraiment le respect de la profession. Mais c'était pas seulement ça. Ce que je voulais également faire, c'était me différencier, parce qu'il y avait tellement de groupes excellents à l'époque. Je voulais faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait jamais été fait par les autres. Donc, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Mais ce que je savais, c'est que si le premier album marchait bien et que si on restait ensemble, ce serait une aventure absolument phénoménale.
Ce qu'il y a aussi, c'est que nous marquons, par exemple, le 50e anniversaire du White Album des Beatles. Quelle énergie, quand même, il y a 50 ans dans le monde de la musique.
Mais oui. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que la musique de l'époque, elle était créée de manière très authentique. Il y avait une véritable communion entre les chanteurs et les musiciens. Ça se passait comme ça. Alors que aujourd'hui, si on essayait de faire un album, bah, ce qui se passe, c'est que les gens s'envoient des fichiers sons les uns aux autres. On va envoyer un MP3 à quelqu'un à Los Angeles, puis quelqu'un va dire, bah, il y a un très bon percussionniste en Espagne, à Barcelone, allez, on va lui envoyer un fichier son. Mais c'est pas comme ça qu'on faisait la musique à l'époque. Les gens se retrouvaient dans une même pièce. C'était des amis qui se retrouvaient, ou quelquefois des ennemis d'ailleurs. Mais enfin, disons, des amis qui se retrouvaient, une véritable communion musicale où on oubliait tout pour faire de la musique.
Et à l'époque, dans le monde de la créativité artistique, on retrouvait ça partout. Par exemple, avec Alan Aldridge pour le graphisme ou Mr. Freedom pour la mode. Il y avait comme un vent de créativité qui soufflait, non ?
Vous savez, moi j'ai une théorie par rapport à tout cela. Je crois que pour toute ma génération, il faut savoir que dans les années qui ont suivi la guerre, lorsqu'on était écolier, étudiant, on savait à coup sûr qu'à la fin de ses études, on allait se retrouver dans l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, service militaire obligatoire. Et tout d'un coup, on a arrêté justement le service militaire. Moi, j'ai échappé de peu. Il y a d'autres groupes, notamment les Rolling Stones. Bah, vous avez Bill Wyman qui a fait l'armée de l'air. Charlie Watts aussi, il a fait l'armée. Ils étaient un peu plus âgés que Mick Jagger ou Keith Richards. Donc moi, j'y ai échappé. Mais alors, ça veut dire qu'il y avait toute une génération qui tout d'un coup avait du temps, ils pouvaient un petit peu souffler et puis prendre des nouvelles décisions pour leur vie, disant, ah, je ne sais pas, je voudrais faire une école d'art ou créer des vêtements. Et alors là, on commençait à créer des projets, construire sa vie, avait cette possibilité d'essayer de nouvelles choses. Malheureusement, ces opportunités n'existent plus pour les jeunes.
Cela m'amène à la question suivante. Quel conseil donneriez-vous à un jeune Jimmy Page aujourd'hui ? On me pose souvent la même question au sujet de la mode. On me demande si je pourrais faire aujourd'hui la même chose qu'à l'époque où j'ai commencé. Et ce que je réponds, c'est que c'est possible, mais il faut prendre plus de temps et avoir un vrai point de vue.
Oui, non, c'est justement un excellent conseil. Vous parlez d'un point de vue et c'est vraiment un aspect intérieur du caractère.
À mon avis, c'est justement grâce à ce point de vue original que Led Zeppelin a démarré si fort. Le groupe avait sa propre vision, il allait de l'avant, il ne suivait pas les autres, il crée.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on se lance, il faut s'en tenir à ce que l'on sait faire. Hein, quel que soit son art, il faut continuer à le travailler. Si on est écrivain, ben il faut écrire tous les jours. Même si ça paraît pas très bon, il faut continuer d'écrire et puis il faut conserver ces essais parce qu'il se peut qu'un jour on y revienne, on retrouve une très bonne idée qu'on avait eue autrefois. Et voilà, on peut combiner une ancienne idée avec une autre et créer quelque chose de nouveau. Et puis c'est comme ça qu'on peut déclencher quelque chose de nouveau. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour la musique notamment. Mais enfin, l'essentiel, c'est de garder confiance en soi, se dire qu'on peut y arriver et pas baisser les bras. Alors, il faut se dire, oui, je peux y arriver, mais il faut s'y consacrer. Et c'est là que la force de caractère peut se développer, ce point de vue peut se développer.
Ce qui est intéressant dans le monde de la mode, c'est que nous étions les premiers à faire des choses originales, notamment pour les artistes rock. Je pense à un certain Paul, un ami commun. Par exemple, utiliser des tissus à fleurs ou du velours pour les vêtements d'hommes. Quoi ? Du velours pour un homme ? Un peu comme John Bonham qui avait fait entrer la grosse caisse dans le rock, du jamais vu.
Vous me permettez de raconter cette petite anecdote, le jour où vous avez... parcouru mon ancienne garde-robe. Alors, on était en train de découvrir mes anciens vêtements, et puis Paul a sorti une chemise de ma garde-robe. Il a dit, mais si je ne m'abuse, sur cette chemise, il y aura une couture à l'arrière. Parce qu'à l'époque, les gens étaient tellement sveltes qu'il fallait bien cintrer les chemises. Et puis, il a retourné la chemise, et en effet, il y avait la couture. Et puis, c'était effectivement une de ces chemises à lui, de Paul Smith. Et c'était un moment extraordinaire. J'en ai des frissons à raconter cette histoire parce que c'était un moment incroyable où c'est Paul Smith en personne qui découvrait dans mon ancienne garde-robe un vêtement.
Alors aujourd'hui, pour les jeunes qui se lancent, il est presque impossible de ne pas s'appuyer sur une référence déjà connue. C'est très difficile d'être original.
Mais oui, c'est vraiment difficile. Et c'est dommage parce que, par exemple, en musique, vous avez des jeunes qui se lancent et qui se disent ben, ils vont y arriver en passant par une académie de musique. Alors que non, c'est pas nécessairement le cas. Au contraire, d'ailleurs. Moi, je me rappelle quand je suis allé à l'école d'art, dans mon école, il y avait un certain style, une façon de faire les choses. Alors, on n'allait pas ressembler au Royal College of Art, mais il y avait un style particulier, une espèce de jargon que tout le monde était censé reprendre. Moi, je connaissais la valeur du groupe, je connaissais la richesse de son répertoire. Alors, nous, on a eu la chance de tenir si longtemps, je crois qu'on a duré 10 ans, ou 11 ans même. 11 ans, donc, à faire de la musique ensemble, à créer des albums, à vraiment s'affirmer sur le plan musical. Et puis, on a touché à tellement de différents genres musicaux pendant cette période, que ce que je dirais maintenant, avec le recul, c'est que, bon, évidemment, c'est formidable d'avoir su créer un groupe avec une telle longévité, mais plus que ça, on a véritablement créé avec notre musique une espèce de mode d'emploi pour qui voudrait apprendre, je ne sais pas moi, la batterie ou la basse ou le clavier, la guitare ou le chant ou même l'harmonica. C'est un véritable mode d'emploi, hein. Et on découvre vraiment comment faire de la musique. Alors, si je laisse un héritage, moi, ce que je dirais, enfin, c'est tout simple, ce que je dirais, c'est ceci. C'est que, et ça paraît peut-être pas évident, mais moi, comment j'ai appris la guitare? Ben, c'est en écoutant des disques. J'essayais d'imiter les solos que j'écoutais sur les disques. C'est comme ça que j'ai appris. Alors, je me rappelle, on avait ces électrophones et puis on déplaçait le bras, l'aiguille sur le disque, ou bien on ralentissait le disque pour l'écouter en détail. Tout le monde faisait ça parce qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de maître. Alors, tout se faisait en Amérique, mais il y avait donc ces disques, ces vinyle noir. Alors, moi, j'apprenais donc en écoutant des disques, et c'est comme ça que j'ai appris la musique. Et notre héritage à nous, ce que nous avons laissé aux autres, c'est que les jeunes pourront écouter, je ne sais pas, ce que j'ai fait sur le plan musical, l'écriture, la musique, l'acoustique, la production. Les gens peuvent s'inspirer de ce que nous avons fait. Et donc, nos disques, à leur tour, laissent un héritage à la nouvelle génération en transmettant ce que moi j'avais appris en écoutant les disques de mon école, de mon époque, les guitaristes. Je me rappelle par exemple Scotty Moore qui jouait avec Elvis ou James Burton qui jouait avec Ricky Nelson. D'ailleurs, il a aussi joué avec Elvis. Mais sur un des premiers albums de Elvis, il y avait une chanson de Big Boy Arthur Crudup, un des tout premiers disques. Hein, c'était My Baby Left Me, c'était d'Arthur Crudup. Il y avait Sleepy John Est qui avait écrit la chanson Milk Cow Blues, qui avait été reprise par Elvis. Alors les gens se disaient, mais qui est Sleepy John Estes? Et moi, j'avais eu la chance de le connaître. Pourquoi? Parce que là où j'habitais, près de chez moi, c'était à deux pas d'où j'habitais, hein, il y avait un gars, un collectionneur de disques. Il était un peu plus âgé que moi. Il travaillait, je me rappelle, dans un atelier d'architecte. Il achetait des tas de disques et j'allais lui rendre visite. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois Muddy Waters. C'est la toute première fois que j'ai découvert Elmore James. Et lui, il achetait ses disques. Alors, il y a un truc, il faisait écouter des choses nouvelles. Alors, on connaît Howling Wolf. Et je me rappelle que sur un de ses albums de Howling Wolf, on voit un fauteuil à bascule avec une guitare hein, sur la pochette. Et c'est là qu'il y a notamment Meet Me in the Bottom et Going Down Slow, des super chansons. Et alors, je me rappelle, alors c'était à Manchester, tous les collectionneurs de blues avaient convergé sur Manchester. Il y avait un véritable festival du blues. Et mon copain, donc Dave Williams, il s'appelait, on est allé dans la maison d'un collectionneur de blues. Il avait cet album donc de Howling Wolf avec le fauteuil à bascule. Personne d'autre l'avait entendu. Je ne sais pas comment lui l'avait trouvé, mais j'ai eu la chance de l'entendre parce que je connaissais un collectionneur de disques qui mettait la main sur des disques avant les autres.
Moi, j'adorais cette musique. Elle était tellement authentique.
Ah oui, absolument. Et puis, il y avait tellement de groupes de R&B, des clubs de R&B qui jouaient le blues. Il y avait la maison Chess Records. Tout ce qui sortait de cette maison, c'était absolument génial.
Je me rappelle encore écouter Led Belly, Huddy, Led Better. Et je me rappelle ma pauvre maman qui me demandait, horrifiée, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était une musique vraiment originale, on n'avait jamais rien entendu de pareil. Vous-même, vous jouiez aussi de la guitare hawaïenne, non? De la steel guitar?
Oui, oui, et puis également du bottleneck, et également la pedal steel. Alors, la pedal steel guitar, c'est un instrument incroyablement compliqué. J'avais le plus grand mal à le jouer. Il y avait tellement de choses à coordonner, je me rappelle. Parce que pour jouer de la pedal steel guitar, d'abord, il y a une barre en acier qui se déplace sur la corde avec la main gauche. Il faut passer la corde avec la main droite. Alors, il n'y a pas tellement de mouvement de ce côté-là. Mais, donc, on se sert de la main droite pour pincer la corde, puis ensuite il y a des leviers qui jouent sur la tension des cordes. Et alors ça, on gère ça avec les genoux, et puis en plus de ça, il y a les pédales.
Vous avez une préférence parmi les instruments? Vous les aimez tous autant ou bien vous préférez la steel guitar ou encore la guitare à double manche?
Bah, je vais vous dire. On faisait des tournées tellement longues que, bon, évidemment, là, tout était en guitare électrique et c'est ça qui a donné lieu à l'utilisation du doublement, justement, parce que je me rappelle quand on a enregistré Stairway sur le quatrième album, il fallait ce genre de guitare. J'avais essayé de refaire ça, d'ailleurs, sur scène. À l'époque, j'y pensais pas. Je pensais pas faire ça sur scène. Je voulais juste faire un enregistrement, quelque chose d'original avec toutes ces couches de guitare superposées pour Stairway. Donc, la guitare à doublement est arrivé là. Mais alors, à l'issue de ces longues tournées, à la maison, je faisais toujours de l'acoustique.
Wow, that was amazing. So, thank you.
Oh, you're welcome.
Yeah.
It's always a pleasure to see you.
Merci Jimmy Page et merci à notre Paul Smith national. Vous passerez à la compta Paul pour le cachet, hein, demandez Brigitte. Bien, ce pop-up exclusif touche à sa fin, mais comme chaque soir, je vais aller chercher le dernier vinyle de l'émission et je me demande bien ce que je vais pouvoir jouer dans ce spécial Led Zepp, tiens. Allez, j'y vais. Oula, pas bon signe ça.
Ah, bonjour, chère directrice. Vous avez vu ce coup de Jimmy Page, hein? Interview exclusive, seul média européen, tout ça, c'est pas mal, non? Mais attendez, Laurent, je vous amène Springsteen sur un plateau il y a un mois. Là, Jimmy Page, je peux vous dire qu'il y a un gros coup qui se prépare. En plus, ça va.
C'est très bien, bravo. Je vous félicite. Bravo. Je vous dis un truc, il faut équilibrer l'émission, là. Alors, vous allez quoi? Vous mettez un vinyle, un artiste maison pour la finir cette émission, d'accord?
D'accord, non, mais c'est une spéciale Jimmy Page. En fait, c'est un peu.
Oh, un artiste inter, c'est okay. Bouger
au point. Ok. Mais je veux bien, mais qui?
Hein.
Oh, ok, Laurence, bah, c'est vous la patronne, c'est parti, allez.
Thank you.
Carlotta Love dans Pop 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 sur France Inter, donc pour terminer ce Pop 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 spécial Jimmy Page. Merci, merci à tous. Avant de terminer cette émission spéciale, je m'adresse à vous tous, chers auditeurs. J'aimerais vous poser une question. Voilà. Aimez-vous regarder Taxi Driver? Je pense que la réponse est oui, mais préférez-vous regarder Taxi Driver avec la voix de Robert De Niro ou avec la voix française de Maurice Serfati? Voilà, comme la réponse est dans la question, je vous invite à retrouver ce pop-pop-pop en VO et en version uncut sur le site de franceinter.fr. Et pour les fans de VF, rassurez-vous, la version longue est elle aussi disponible sur Balado Diffusion. Merci à l'équipe de Pop-pop-pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Léo Prancher, à ça pour Prancher et Prancher, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, et à la traduction Robert Wolfenstein. Demain dans Pop Pop Pop, une spéciale BD à l'occasion du 46e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jeunes 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos stage diving sur YouTube, abonnez-vous à notre...
Mais il faut quelqu'un en dessous, Antoine.
Sur les internets, comme disent les millennials. 36 15 Pop 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 sur Instagram et Twitter.